très rapidement, sur le plan de la méthode, de méthodologie, etc., vous pourrez bien sûr poser toutes questions, et puis tout de suite présenter les grands résultats. Et puis ensuite, vous laissez la parole, bien sûr, et on reviendra peut-être sur quelques-unes des diagrammes qu'on va présenter, des images, des graphiques, des courbes, de façon sectorielle par la suite. Donc on va tout de suite faire cette petite présentation. Le départ, pour nous, c'est un constat de l'urgence. Le constat, vous le savez, de l'urgence climatique, 650 ppm de CO2 de l'atmosphère, est-ce que ça sera le taux de l'inaction à l'horizon 2100? Évidemment, c'est catastrophique. Vous savez que la limite à ne pas dépasser serait normalement de 350 ppm. On l'a déjà dépassé et on s'achemine, si tout va bien, vers une stabilisation à 450 parties par million. Autre problème urgent, bien sûr, c'est la fin prévisible de ce qu'on peut appeler les fossiles faciles, c'est-à-dire la disparition programmée maintenant à échéance de quelques générations de ces énergies qui nous ont fait vivre, déplacer, chauffer, etc., durant maintenant plus d'un siècle. Depuis 1985, les découvertes de pétrole sont, nous rappelle l'association ASPO, sont inférieures aux consommations. On le voit bien ici sur ce graphe où vous avez le différentiel entre les découvertes et la consommation. Jusqu'à 1985, les découvertes ont été plus importantes que la consommation. Et puis à partir de 1985, on est maintenant, depuis donc plusieurs décennies, sur exactement l'inverse. On arrive donc à la fin de ce pétrole, de ce gaz facile, en quelque sorte. Il sera donc de plus en plus cher, et évidemment, il faut anticiper. Et puis, bien sûr, le nucléaire est-il réellement compatible avec un authentique développement soutenable? Pour nous, on n'a pas de religion antinucléaire. Ce n'est pas un point de départ. C'est simplement un constat. À partir du moment où on regarde l'ensemble des énergies en n'ayant pas non seulement l'œil sur le carbone, sur le seul carbone, mais sur l'ensemble des risques, des problématiques qui sont liées à telle et telle énergie, il est clair que pour nous, dans sa situation actuelle, dans son développement actuel, le nucléaire ne répond pas aux critères qu'on est en droit d'attendre d'un authentique développement soutenable, c'est-à-dire de ne pas laisser aux générations qui vont venir des fardeaux et des charges plutôt que des rentes ou des bienfaits. À l'évidence, je ne vais pas rappeler évidemment Fukushima et ce qui se passe en ce moment, mais à l'évidence, pour nous, le nucléaire n'y répond pas. Donc, c'est une énergie de transition, en quelque sorte. La vraie transition, finalement, sera en réalité le nucléaire et les fossiles. Et on a donc développé ce qu'on a appelé une démarche mégawatt, où vous avez trois étapes. La première étape, c'est celle de la sobriété énergétique, la deuxième, celle de l'efficacité, et puis ensuite, une fois qu'on a fait ce travail, ce chemin sur la demande d'énergie, sur finalement nos consommations, eh bien, à un moment donné, il faut produire, évidemment, il faut produire physiquement, et on fait, nous, le choix très prioritaire de travailler avec des énergies de flux, des énergies qui se reconstituent, qui viennent finalement du soleil, pour la quasi-totalité d'entre elles, mis à part la géothermie de profondeur, qui permettent à ce moment-là de retrouver rapidement un état d'équilibre, en quelque sorte, sur lequel les flux entrants et sortants ne seront pas équilibrés, alors qu'actuellement on est totalement déséquilibré avec une prédation finalement sur des stocks, que ce soit des stocks de charbon, de gaz ou de pétrole. Alors, quel bilan au terme du chemin? Je passe tout de suite à la fin de l'exercice pour pouvoir après d'ailleurs le redévelopper selon vos questions. Un mot quand même sur l'exercice. 14 mois de boulot. Vous voyez ici 6 avec moi, pardon. 6 avec moi. On sera 7 tout à l'heure. En fait, il y a à peu près une douzaine de personnes qui ont travaillé dessus, plus derrière d'autres, parce que Mégawatt, c'est un réseau, et on a pu comme ça mobiliser à peu près une vingtaine de personnes au total, pas uniquement des ingénieurs, mais aussi des gens qui sont universitaires, qui sont des architectes, qui sont des sociologues, etc., qui font ce travail-là, avec toute une série d'ateliers prospectifs, et puis évidemment un très gros travail ensuite de calcul. calcul, mais l'exercice n'a pas été uniquement un exercice de comptabilité des terawattheures, c'est un exercice qui s'est avéré, on va en parler tout à l'heure, de plus en plus sociétal. Alors, quel bilan ? Ça, cette espèce de truc un peu compliqué, hein, ça fait un peu plan métro, mais c'est l'ensemble des flux, c'est notre système énergétique en France actuellement, qu'on a totalement reconstitué. Alors, vous avez à gauche, ici, vous avez à gauche l'ensemble des énergies, ce qu'on appelle les énergies primaires, c'est-à-dire tout en haut, en rouge, c'est le pétrole, le gaz, et puis en dessous, vous avez en violet l'uranium. Et vous voyez que les énergies renouvelables, elles sont elles tout en bas, on a essentiellement un peu de biomasse, mais on est vraiment, c'est le cas de le dire, dans l'épaisseur du trait. Et on a reconstitué après toutes les pertes thermiques correspondantes. Autrement dit, à chaque fois qu'on a une transformation, il y aura des pertes, par exemple, il y en a une qui est tout à fait significative ici, lorsque vous avez affaire à des centrales thermiques, c'est-à-dire des centrales nucléaires, charbon, fioul, etc., essentiellement nucléaires en France, vous le savez, eh bien, le rendement est de l'ordre de 33% pour le nucléaire, jusqu'à 38% pour les centrales thermiques, et donc il y a de très grosses pertes, c'est la chaleur qui passe dans les rivières, dans l'air, etc., et c'est cette grande flèche grise qui remonte. Le reste va donner en bleu de l'électricité, et on a, vous le savez, un mix électrique qui va venir essentiellement du nucléaire, mais aussi d'autres sources. Et puis tout à l'arrivée à droite, vous avez ce qu'on appelle l'énergie finale, c'est-à-dire finalement les usages énergétiques. Tout en haut, c'est la chaleur, vous voyez que c'est la chaleur le plus important. En dessous, la mobilité, et puis après, l'électricité en bleu. Et finalement, l'électricité, on le dit souvent, ça n'est que 21% du problème énergétique. On en parle, c'est 90% du débat, mais c'est 21% finalement de l'ensemble de nos énergies. Entre les deux, vous avez toute une série de petits rectangles, c'est les vecteurs énergétiques, c'est-à-dire la façon dont on va transformer l'énergie. Par exemple, on peut avoir... De la chaleur qui va passer ensuite dans l'eau chaude pour un réseau de chaleur, eh bien c'est un vecteur énergétique. Et on a fait cette fois-ci un travail très approfondi sur les vecteurs énergétiques, même à double étage. Ici, vous voyez qu'il y a deux colonnes de vecteurs, qu'on appelle les vecteurs primaires et secondaires, et on a reconstitué en quelque sorte l'ensemble de ce chemin-là. Mais notre point de départ, il a été à droite, c'est-à-dire sur les énergies finales, sur la demande, et on a étudié l'ensemble des consommations énergétiques, que ça soit domestique, en faisant, ou industriel, en faisant ce qu'on appelle du bottom-up, d'un terme un peu technique, c'est-à-dire de l'agrégation de consommation. En clair, en étant un petit peu trivial, on va venir regarder quels sont les appareils qu'utilisent les Français, par exemple leur réfrigérateur, qu'est-ce que c'est que les réfrigérateurs en France, quel est le parc, et puis finalement, quel serait le potentiel de mégawatts qu'il y a chez les réfrigérateurs. De la même façon, on a étudié une trentaine de postes de consommation au niveau domestique, plus une analyse dans l'industrie et dans l'agriculture tout à fait importante. De la même façon, en mobilité aussi, on a aussi reconstitué comme ça l'ensemble des modalités de déplacement pour retomber sur l'énergie finale, et puis après reconstituer aussi les vecteurs secondaires, les vecteurs primaires, pour remonter enfin à l'énergie primaire. Alors ça, c'est le scénario mégawatt 2050. Autrement dit, vous voyez entre les deux un changement radical, un changement profond en ce qui concerne nouveau paysage énergétique. Autrement dit, là où à droite, on avait encore énormément d'énergies fossiles, elles ont quasiment disparu, ou pratiquement. Les renouvelables sont plus importantes, mais vous voyez que les renouvelables, ce n'est pas des très très gros traits, de très grosses épaisseurs, hein, comme on peut avoir actuellement sur le pétrole, le uranium, etc. C'est tout un mix, toute une série de renouvelables. Et tout au bout, dans les énergies finales, eh bien, là aussi, des baisses. Regardez par exemple la chaleur, ici, hop, la chaleur est beaucoup plus basse. C'est tout le travail qui a été fait sur la sobriété, l'efficacité, l'isolation des logements, etc., qui arrive à réduire ça. Alors réduisant ça, il est évident qu'on a beaucoup moins besoin d'énergie primaire. Et entre les deux, la difficulté, c'est le réseau, on va en parler tout à l'heure, c'est le réseau, c'est la façon dont ça mixte. On a fait un travail beaucoup plus approfondi avec un certain nombre d'innovations. Quel résultat? Le bilan chaleur, ici, il est, on a une baisse à peu près de la moitié, si vous voulez, de la chaleur. Vous avez en rouge, en haut, ce qu'on appelait le deuxième scénario qu'on a travaillé, c'est-à-dire un scénario tendanciel. Quelles sont les tendances? Qu'est-ce qu'on peut imaginer au travers de ce qu'on, disons, d'une sorte de continuation du laisser-faire, en quelque sorte, mais en tenant compte aussi d'une variable très importante dont on s'est aperçu dans ce nouveau scénario, c'est des projections très différentes de l'INSEE pour 2050 par rapport à notre exercice 2006. Autrement dit, il a fallu intégrer 7 millions de personnes supplémentaires en 2050. En gros, c'est comme si tout d'un coup, il fallait en 2050 chauffer, habiter, nourrir, déplacer, etc., l'équivalent de la région Rhône-Alpes. C'est beaucoup d'énergie, bien entendu. Il y a aussi, dans le tendanciel, évidemment, on prend en compte ça à la fois dans les deux scénarios tendanciels et mégawatts, mais aussi dans le tendanciel, on a une prolongation des tendances, d'où cette courbe qui agrège, qui monte légèrement, et qui agrège l'ensemble des consommations. En gros, c'est une hypothèse de quasi-stabilité de la consommation à l'horizon 2050 sur la partie chaleur. En bleu, le scénario mégawatts. Et deux courbes en dessous, en vert, ce qu'on arrive à faire avec l'ensemble de toutes les renouvelables, et en noir, ce qui reste en quelque sorte sur toute la partie fossile et fissile. Et puis les courbes négatives, en quelque sorte, c'est les mégawatts, c'est-à-dire la sobriété énergétique, et puis l'efficacité, qui est tout en bas, qui est très importante évidemment au niveau des bâtiments, c'est tout ce qui relève de l'isolation. Voilà pour la chaleur. Pour la mobilité, avec évidemment les mêmes couleurs de courbes, eh bien, on a aussi une baisse qui est à peu près de l'ordre un peu plus supérieur à 2, de 4 à peu près, avec une montée assez forte des renouvelables, vous le voyez, qui se termine avec une espèce de base, de talon en quelque sorte, qui est un petit peu incompressible. C'est ce qui restera à partir des fossiles, le kérosène par exemple des avions ou des moteurs sur lesquels on pourra difficilement passer, ou des process sur lesquels on pourra, des moteurs de déplacement, de mobilité, sur lesquels on pourra difficilement passer ou imaginer de passer rapidement à d'autres types de carburant, mais ça reste possible. On a, disons qu'à partir de 2045, dans le scénario, on a été relativement prudent, parce que d'abord c'est très loin, et puis on aurait pu, si vous voulez, faire un scénario 100% renouvelable. Mais on n'a pas voulu se livrer à l'exercice, je dirais, par précaution. En ce qui concerne l'électricité spécifique, c'est-à-dire nos consommations d'électricité, pour les appareils, les lampes, les ordinateurs, les machines, les moteurs, etc., donc pas là-dedans le chauffage, c'est ça, c'est de la chaleur, ni tout ce qui relève des systèmes de production d'énergie, eh bien, on arrive, vous le voyez, à un système électrique qui est totalement à base de renouvelables à partir, en gros, de 2040, de cet ordre, 2041-2042. Là, sur le système électrique, il est possible de se passer complètement d'énergie fossile. On a fait un travail également en électricité. Je vous invite à poser quelques questions là-dessus aussi tout à l'heure, parce que c'est évidemment un point très très important. On a fait cette fois-ci dans l'exercice 2011 tout un travail en énergie, bien sûr, mais aussi en puissance, avec une reconstitution de l'ensemble des centrales françaises, du parc français, et derrière ce qu'on appelle des facteurs d'usage, des courbes d'usage, autrement dit, on sait à quelle heure, statistiquement, et selon les mesures, l'éclairage va se produire, ou par exemple, certaines machines, etc., on a des profils. Quand on additionne l'ensemble de ces profils, eh bien, on reconstitue à ce moment-là des courbes en puissance. Et évidemment, il faut que notre système puisse fournir la puissance à tout moment. C'est l'exercice auquel on s'est attelé, avec une modélisation, finalement, qui est heure par heure, jusqu'à 2050, on n'a pas regardé évidemment toutes les heures, mais on a travaillé bien sûr sur des séquences de temps particulières. Qu'est-ce qui se passe si il n'y a pas de vent, par exemple, à un moment donné? Qu'est-ce qui se passe si et comment le système va devoir réagir, à la fois au niveau de la gestion du réseau, mais également en termes de stockage? Le bilan en énergie primaire, ici, c'est-à-dire, là je parlais d'énergie finale, maintenant en énergie primaire, vous avez à gauche le tendanciel, vous voyez qu'il... On est en quelque sorte en prolongation de tendance, avec une augmentation quand même un peu plus marquée des renouvelables, une continuation du nucléaire et du pétrole. Pas de modification forte sur ce plan-là. 7 millions de personnes supplémentaires, j'en ai parlé tout à l'heure. Et à droite, vous avez le scénario mégawatt. En haut, sur les trois premières surfaces qui sont en haut, orange, jaune et puis un peu plus bas en beige, vous avez tout le potentiel de mégawatt, de sobriété, d'efficacité sur la consommation et d'efficacité sur la production. Et donc, juste en haut de la courbe en vert, les renouvelables, la surface en vert, c'est ce qu'il faut produire. Vous voyez donc qu'il y a une baisse considérable au niveau de, finalement, la demande d'énergie, qui est de l'ordre de 65%, 64% de mémoire, si bien qu'on n'a plus que ça à produire. Et plus que ça à produire, on le fait au travers des renouvelables, qui augmentent, vous le voyez, on le fait au travers de, évidemment de l'uranium, mais avec une fin et une sortie du nucléaire, on en reparlait tout à l'heure, aux alentours donc, de 2033. Et puis on le fait avec du gaz, qui est en jaune en dessous de l'uranium. Et le gaz va nous servir de variable d'ajustement, va nous servir à un moment donné, si les renouvelables ne sont pas assez montées en puissance, de pouvoir boucler avec du gaz d'origine naturelle, du gaz naturel, celui qu'on utilise actuellement. Et vous voyez qu'il est, on le voit ici, il est assez bien stabilisé. On avait peur évidemment d'avoir, avec une date de sortie assez rapprochée, une explosion de la demande en gaz naturel, donc des importations, donc des émissions de CO2. Mais ce n'est pas le cas et on a cette stabilisation avec en dessous la fin la décroissance très forte du pétrole. Le bilan en CO2 est assez spectaculaire. Par rapport à 2006, les émissions de CO2 sont réduites d'un facteur 2 en 2030, c'est le point de passage à 2030, et d'un facteur 16 en 2050. On est pratiquement sur un facteur 20 si on prend le point de départ de référence Kyoto 1990. Un point très important ici, c'est on a regardé également qu'est-ce qui se passe, parce que c'est bien d'avoir un facteur 16 en 2050. Mais si on a, d'ici là, émis énormément de CO2, évidemment, on n'est pas gagné. Vous savez que le CO2 se cumule dans l'atmosphère. Donc, on a regardé le bilan cumulé. Et le bilan cumulé sur l'idée suivante, vous savez qu'il y a un certain nombre de travaux, notamment les travaux de l'Institut Potsdam, de Münchhausen, qui disent, à partir de 2000, il ne faut pas que l'humanité émette plus que, au niveau énergétique, pour les émissions énergétiques, plus que 1000 milliards de tonnes de CO2 au total, sur le monde entier. Et on a déjà, puisqu'on est en 2011, on n'a plus que 780 milliards de tonnes de CO2 à émettre. Donc, on s'est dit, quelle serait la part, la quantité que la France devrait prendre dans ce gâteau, dans ce mauvais gâteau, ce gâteau toxique, en quelque sorte, à émettre, pour être compatible, je dirais, avec cette vision mondiale. On a calculé ça et on arrive autour de 6 000 millions de tonnes de CO2 à émettre jusqu'à 2050. Et le scénario mégawatt y arrive tout juste, un tout petit peu plus haut, mais y arrive. C'est la zone que vous voyez ici en bleu et qui correspond en fait à 75% de chance de limiter la température à 2 degrés à l'horizon 2100. C'est l'horizon 2100 qui est pris comme référence au niveau des degrés. Et là, l'analyse est sur 2011-2050. Donc on voit bien qu'on a une stabilisation du CO2 progressive et le cumul rentre bien dans cette hypothèse mondiale. Le tendanciel est en rouge, il est quasiment linéaire. Et là, vous voyez qu'on va dépasser dès 2027-2028, si on continue comme ça, les émissions, le potentiel d'émissions que la France devrait se permettre sur un prorata par rapport à son poids démographique. Le bilan du nucléaire, et voilà l'image de la sortie, elle a été reconstituée réacteur par réacteur, c'est tous les petits points, cette belle image pointilliste, c'est les 58 réacteurs français avec les différents paliers, la hauteur de chacun des points correspond à leur production, et il y a une courbe de descente qui a été assez calculée, et dont on parlera tout à l'heure, qui nous mène donc à une sortie vers 2033, à la condition, bien entendu, de démarrer le scénario mégawatt, très rapidement après cette conférence de presse et la journée d'aujourd'hui. Les énergies fossiles, je ne sais pas si vous ne voyez pas très bien la courbe qui est en jaune, je vais vous dire un petit peu. la voie un petit peu est importante, c'est celle du gaz. C'est un petit peu le même graphique que tout à l'heure. Vous voyez en rouge le pétrole, en noir le charbon, et surtout ce qui est important, c'est le gaz, parce que c'était, vous l'avez dit, notre barrière d'ajustement. On voit bien que le gaz est à peu près stabilisé jusqu'à 2038 à peu près. Et c'est là qu'à ce moment-là, les renouvelables continuent à monter, à progresser, et que le gaz naturel d'origine fossile commence donc à être substitué. D'ici là, il nous sert de variable d'ajustement avec, et là c'est l'ensemble de toutes les consommations de gaz naturel, avec donc une stabilisation, mais même une diminution d'ailleurs par rapport à aux quantités d'aujourd'hui. Voilà, j'ai terminé ce petit parcours très rapide. Je suis sûr que vous avez énormément de questions.